Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Démocratie en progrès de ce mois d'avril 2023. Le thème à retenir est journalisme citoyen et rôle des réseaux sociaux dans la lutte contre la corruption. Les invités sont Dr Sibi Georges. Il est expert en bonne gouvernance. Il est en fonction à l'inspection générale d'État. Monsieur Palmer Fousseni Touré, il est directeur de la communication au ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Madame Félicité Cramo, elle est directrice des opérations à la commission d'accès aux informations d'intérêt public, KIDP. Également, monsieur Gérard Guédégbé, il est expert média, consultant international. Monsieur Adama Malé, il est directeur général de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Modération de ce panel, Ben Diakité, réalisation, Antoine Kouassi.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Merci beaucoup, chers invités, d'avoir effectué le déplacement ici même à Radio de la paix pour échanger avec nous sur ce thème qui est journaliste citoyen et rôle des réseaux sociaux dans la lutte contre la corruption. Alors, comment vous appréhendez ce thème? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par les thèmes journaliste citoyen, réseaux sociaux et corruption? On va commencer avec vous, monsieur Adama Malé, vous qui êtes donc directeur exécutif de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Si on parle de journaliste citoyen, quel est son rapport avec les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'il peut faire comme rôle ou mission dans le cadre donc, de la lutte contre la corruption?
Effectivement, le journaliste citoyen a pris de l'ampleur ces dernières années. On peut dire que le journaliste citoyen, c'est un journaliste participatif, utilisé notamment par les citoyens pour la promotion de la bonne gouvernance. En l'occurrence, c'est la collecte des informations et aussi l'analyse des informations comme un journaliste professionnel. Mais attention, il ne faudrait pas aussi substituer le journalisme citoyen au journalisme professionnel qui est aussi cadré par les normes déontologiques et aussi des rigueurs en matière de qualité. Donc, le lien qu'on peut faire du journalisme citoyen, des réseaux sociaux et de la lutte contre la corruption, on peut dire que les réseaux sociaux sont un moyen d'amplification du message, de l'information vis-à-vis que le citoyen a. Et la lutte contre la corruption ici, c'est phasé en trois temps. On a la prévention, la détection et la répression. Donc, en tant que journaliste citoyen, on peut utiliser les réseaux sociaux en vue de promouvoir, on va dire, la bonne gouvernance, qui est la sphère plus générale, dont est inclus la lutte contre la corruption.
Monsieur Gérard Guédégbé, vous qui êtes donc un expert des médias, le concept de journaliste citoyen, il apparaît quand et il sert à quoi? En quoi il est différent du journaliste habituel qu'on connaît?
Okay, merci. Il faut faire deux constats. Le premier, il faut dire que le thème journalisme citoyen est, je veux dire, apparu à la conscience de l'humanité depuis 1963. L'idée, c'est de vous dire que ça ne date pas de maintenant. Les réseaux sociaux sont venus amplifier quelque chose qui a eu cours et qui, comme je l'ai dit, a montré une certaine déficience de l'information dont le public a besoin, comme je le dis tous partout, pour être libre et autonome de décider. J'ai parlé de 63. La seule vidéo qui a existé sur la Terre pour témoigner de l'assassinat de Kennedy a été fait par, non pas un journaliste, mais par un randonneur, je veux dire même quelqu'un qui se promenait et qui était en train de regarder le convoi de véhicules en filmant avec sa cam de fortune. Et c'est lui qui a immortalisé les 26 secondes qui ont été montrées partout sur la terre de l'assassinat de Kennedy. Et il n'était pas journaliste. Et je peux vous dire que cette vidéo a été vendue à près de $200,000 au journal qui a publié pour la première fois cette image. Pour vous dire que l'idée de journalisme citoyen, c'est l'espace du journaliste professionnel pris par le public pour assouvir un besoin d'information devenu de plus en plus croissant et qui n'est plus, je vais dire, disponible au niveau du journalisme professionnel. Pour diverses raisons. Donc, je pense que c'est encore cette partie qui reste, je veux dire, le talon d'Achille du journalisme citoyen. Sinon, à l'origine, c'est une très belle idée d'avoir le citoyen aujourd'hui. Faire une incursion dans le domaine de la production de l'information, de la diffusion de l'information. Mais il manque l'analyse, il manque la responsabilité, il manque un certain nombre d'éléments qui pourraient faire en sorte que l'information qui est passée ne soit pas au détriment de l'individu. Vous savez, si on montre votre image dans des positions qui ne sont pas favorables à votre épanouissement personnel, professionnel ou autre, il y a un problème, c'est-à-dire on tord le cou à vos droits pour un besoin d'information ou de buzz, tout ce que vous voulez. Et en ce moment, on pense que le journalisme citoyen peut être utile à la démocratie, encore que on a besoin de faire en sorte que cela ne contribue pas à davantage éroder les droits humains. Et je pense que c'est là où la question que vous posez, moi je fais le lien très pertinent entre l'utilisation des réseaux sociaux pour combattre la corruption, mais aussi la préservation des droits humains. On reviendra dessus parce que les personnes qui sont souvent mises en cause sont des personnes ayant une famille, ils ont un statut social, ils ont un statut professionnel. Et si on ne fait pas attention sur les dénonciations qui sont faites, d'accord, sur la base de ce qu'on aurait glané ici et là, sur eux, on risque peut-être de foutre en l'air toute une carrière, tout un statut et une vie privée. Et je pense que c'est un sujet vraiment d'actualité. Merci d'avoir choisi un thème de cette envergure.
Merci beaucoup, monsieur Gérard Guédégué. Nous allons nous tourner du côté de madame Félicité Cramaud, vous qui travaillez donc au niveau donc de la commission d'accès à l'information d'intérêt public. La problématique ici qui a été posée, donc c'est l'accès à l'information et sa diffusion par rapport donc au sujet qu'est la corruption. Vous permettez l'accès des populations à l'information publique. C'est quoi l'idée derrière? Pourquoi les populations doivent-elles accéder à l'information d'intérêt public? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ce sont toutes les informations auxquelles les populations ont droit, ou bien il y a des restrictions, si oui, lesquelles et à quelles conditions?
Merci, M. Ben Diakité. Ça fait beaucoup de questions en une seule. La question de mettre à la disposition l'information d'intérêt public, je prends le soin de mettre un accent sur intérêt public, est une décision du gouvernement ivoirien, mais c'est une décision qui est lointaine et qui cadre avec les instruments internationaux. On peut tirer sa source de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est juste la conscience que nous sommes en démocratie. Le citoyen donne le pouvoir à des hommes pour exercer ce pouvoir-là en son nom et pour son bien-être. Et il est important que le citoyen ait un regard de contrôle. Et pour contrôler, il faut savoir ce qui a été fait. Donc l'idée derrière l'accès à l'information d'intérêt public, c'est de dire simplement qu'aujourd'hui, les citoyens qui sont les acteurs premiers du pouvoir doivent être associés à sa gouvernance et doivent pouvoir contrôler l'ensemble des œuvres qui sont réalisées pour eux par les tenants du pouvoir. Tout à l'heure, les premiers intervenants sont revenus sur ce que c'est que le journaliste citoyen. Donc, les autres questions, je vais y revenir bien plus tard, mais j'avais un mot à dire là-dessus. Cette notion est intéressante parce que antérieurement, c'était aux journalistes de choisir parmi l'ensemble de la diversité des informations celui qu'ils voulaient traiter. Et donc, le citoyen était le consommateur de l'information choisie par le journaliste professionnel. Ce qui change aujourd'hui, c'est que, avec la notion de journaliste citoyen, c'est le citoyen qui décide de mettre au devant du jour une information qui peut paraître mineure au départ, mais d'en faire une information forte. Tout l'intérêt et toute la problématique, comme ils l'ont soulevé tout à l'heure, c'est comment encadrer dans un état de droit cette avancée qui prend beaucoup plus de l'ampleur avec les réseaux sociaux, comment l'encadrer, puisque la loi sur l'accès à l'information est encadrée au niveau étatique, c'est encadré par la Constitution ivoirienne, c'est encadré par une loi spécifique, la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013. Donc nous sommes dans un état, il est vrai que les citoyens ont des droits, mais encore faut-il que ces droits-là puissent être encadrés de sorte que la possibilité qui est offerte aux citoyens d'être au cœur de l'information et d'être au cœur du développement ne se détourne pas à d'autres fins.
On va revenir à vous tout à l'heure, Madame Félicité Crambeau. Monsieur Fousséni Touré, Palmer, donc du ministère de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pourquoi, dans votre démarche, dans la lutte contre la corruption, la place des médias, d'une part, d'autre part, le rôle que peut supporter les journalistes dans cette lutte contre la corruption? Comment elle doit se décliner? Comment elle se présente? Et quelles sont donc les responsabilités que doivent assumer ces journalistes?
Merci beaucoup, Monsieur Bendjakité, pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à ce débat citoyen, mais surtout de porter la politique de l'État de Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption. En ce qui concerne le premier sujet, justement, les journalistes citoyens, lutte contre les réseaux sociaux, ils ont déjà touché. La seule chose que je veux dire, c'est que le dénominateur commun de ces trois éléments, c'est qu'aujourd'hui, l'information est démocratisée. Le citoyen qui était le destinataire devient lui aussi émetteur de l'information maintenant. Il devient aujourd'hui émetteur de l'information. Ça va au-delà de la presse traditionnelle qui, évidemment, choisit selon sa ligne éditoriale. Donc, le citoyen devient l'émetteur de l'information. Et puis, comme l'a dit précédemment, justement, il y a un certain nombre d'obligations professionnelles qu'il faut juste encadrer. Pour revenir au rôle du journaliste dans la lutte contre la corruption, notre ministère ne fait qu'obéir à un ordre légal, à une disposition légale, qui est la loi 660 du 20 septembre 2013, en son article 25 et 26, qui incombe des obligations aux médias. L'article 25 qui stipule clairement que les médias ont un accès libre et effectif aux informations relatives à la lutte contre la corruption, aux infractions assimilées, sous réserve de la préservation de la dignité et de la sécurité nationale. Et l'article 26, plus loin, dit que la presse participe à la prévention et à la lutte contre la corruption en publiant les informations irrelatives. Donc, tout le champ de notre intervention en tant que ministère est clairement défini par cette loi. On pourrait aller plus loin pour dire, mais comment cela se manifeste? L'État, en mettant déjà cette loi, Mme Cramon l'a dit, il y a déjà la CAIDP qui permet aux journalistes d'avoir accès à l'information. Mais nous, au niveau du ministère, nous sommes allés dans le même sens. Nous avons mis en place une plateforme. La plateforme des journalistes d'investigation. Parce que et c'est un fait rare. Dans l'écosystème de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, dans le pays, il est très rare de voir que l'exécutif ou les tenants du pouvoir puissent créer justement ce contre-pouvoir pour le contrôler. Dans tous les partenaires qu'on a eus, dans toutes les expériences, toutes les immersions qu'on a faites dans les autres pays, nous on dit, mais c'est incroyable. Vous-même, l'État, vous créez votre propre contre-pouvoir? Oui, le ministère l'a fait avec l'accord du gouvernement du Premier ministre. On a mis en place avec la PU et la coopération de la GIZ, la coopération allemande, la plateforme des journalistes d'investigation qui est gérée, animée que par les journalistes eux-mêmes. Nous avons créé le cadre. Nous avons dit l'État a l'obligation de créer l'espace, de faire respecter la loi. Mais vous avez l'obligation de nous faire remonter, de dénoncer les actes de corruption justement que nous, peut-être politiques, pouvoir public, on ne pourra pas dire. Et ces journalistes-là, déjà ont participé à trois sessions de formation déjà avec l'ensemble de nos partenaires. Et nous lançons dans quelques jours, pour ne pas dire la semaine prochaine déjà, le prix du meilleur journaliste d'investigation en matière de lutte contre la corruption. Pour dire que nous encourageons fortement cela. Et il y aura trois prix. Le premier prix, le deuxième prix, Zorobarlo, et le prix d'encouragement. Nous encourageons fortement cela. Parce que l'expérience a montré que la lutte contre la corruption dans plusieurs États, le journaliste est un acteur important dans la lutte contre la corruption. On a vu donc l'affaire des Pandora Papers, Récemment, on a vu avec, dans le monde sportif, au Barcelone, avec l'affaire de l'arbitrage où le 23 mars dernier, ils ont été convoqués au tribunal. Ici même en Côte d'Ivoire, on a vu que l'éléphant déchaîné, c'est un homme, de journalistes ont mis en lumière certains faits. Je ne pouvais pas te dire ce que l'affaire a été saisie récemment, tout ça. Donc, il joue un rôle et aujourd'hui, il faut se réjouir que l'État de Côte d'Ivoire a créé véritablement les conditions, non seulement par la loi, le régime juridique de la presse, la CAIDP, le ministère, les conditions sont vraiment créées pour permettre justement aux journalistes d'exercer professionnellement leur métier et donc de contribuer à la lutte contre la corruption. Donc c'est une exigence légale que nous ne faisons que respecter. Nous créons l'espace pour que justement les journalistes puissent participer justement à cette lutte et à la prévention contre la corruption.
D'accord. Entre cet espace qui est créé et la liberté des journalistes, est-ce qu'il n'y a pas parfois des conflits? Non.
Non du tout, d'autant plus que la loi crée le principe et les exceptions. Mmh. Le journaliste a accès libre à l'information sous réserve du respect de la vie privée, de la dignité, de la sûreté. Donc tant que le journaliste respecte ce cadre-là, peut relever des informations et de nature à contribuer justement au développement social, de nature à ne pas aller dans la délation, dans la diffamation. Tant que ça respecte cet ordre-là, le journaliste peut exercer librement sa fonction de journaliste et d'investigateur justement dans la lutte contre la corruption.
Docteur Sibi, avec vous, on va vous demander la qualité de l'information. Alors, quelles sont, en termes de lutte contre la corruption, les informations qu'on doit rendre disponibles pour le public? Quelles sont les informations qu'on ne doit pas communiquer? Comment on peut lutter efficacement contre la corruption en publiant des informations s'il y a que, parfois, il y a des restrictions sur la diffusion de certaines informations?
Je pense que Radio de la Paix fait bien d'évoquer des problèmes cruciaux de société, et surtout d'actualité. La question de journalisme citoyen, de lutte contre la corruption, sont des faits de plus en plus de sociétés, mais en même temps, ce sont des faits qui sont imbriqués. Il y a une certaine synergie. Tout gouvernement est pris d'un sens de bonne gestion des finances publiques et généralement de transparence. On constate que de plus en plus, les médias jouent un peu ce rôle de contrepoids de l'action publique en termes de surveillance, en termes de contrôle externe. Quant à la qualité de l'information, il faut être un peu prudent parce que lorsque des faits de société en termes de corruption sont dénoncés, il y a des services de l'administration qui sont habilités à apporter des réponses en termes de véracité des faits. Et aujourd'hui, il y a un corpus, n'est-ce pas, réglementaire en Côte d'Ivoire, depuis l'offre de 2009, la loi organique de la loi des finances publiques, qui porte code de transparence sur tout ce qui a trait à la bonne gestion des deniers publics. Donc, ceci dit, il y a plusieurs acteurs qui interviennent au niveau du contrôle en termes de lutte contre la corruption, bien entendu, l'organe supérieur de contrôle administratif, notamment l'inspection générale d'État, aujourd'hui la Cour des comptes, aujourd'hui l'ARNP, l'autorité de régulation des marchés publics, la haute autorité pour la bonne gouvernance. Donc le gouvernement est aujourd'hui très sensible à la gestion des deniers publics. Ceci dit, la maxime de Moore nous dit qui peut plus peut moins. Et le fait d'avoir plusieurs structures qui travaillent en synergie renforce les outils de contrôle et de reddition des comptes, aussi bien en interne qu'en externe. Le contrôle, comme on l'évoque ici, les aspects liés au contrôle citoyen relèvent du contrôle externe. Les journalistes ont un rôle de contrôle externe. Mais il y a des outils de contrôle interne, tels que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, le ministère, qui est le département ministériel en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, l'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, relèvent du contrôle interne pour lutter efficacement contre la corruption. Le journalisme citoyen se veut quelque chose de participatif et qui doit contribuer à la bonne gouvernance et à la démocratie dans un État. Les autres l'ont dit, mais c'est quelle information qu'il faut diffuser? Il y a une série d'informations. Il y a la qualité de l'information. Et aujourd'hui, sur ces questions, il y a tout le corpus juridique qui circonscrit les droits et les devoirs des journalistes. Le citoyen lambda, dans sa quête de recherche de la vérité et de l'information, peut contribuer à cet exercice. Mais bien souvent, il n'a pas toute l'information concernant ses droits en termes de prérogatives et ses devoirs. On le constate, il y a des personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui se permettent de diffuser des informations sans tenir compte de la déontologie, de la charte d'éthique. Donc il y a toutes ces informations qu'il faut partager. Et c'est pour ça que je dis, l'information est contrôlée. Lorsque nous donnons des informations dans des journaux publics, ça relève de l'information blanche. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à ce type d'informations. Mais lorsque vous commencez à monter l'échelle, il y a des informations traitées grises. Et là, il faut des codes d'accès pour avoir ces informations. Et plus loin, de niveau élevé ou très élevé, il y a l'information noire. Vous ne pouvez même pas avoir accès à ces informations. C'est des informations qui relèvent du secret d'État ou des licences et des brevets. Tout le monde ne peut pas avoir accès à des informations. Ça dépend de l'échelle où on se situe. Donc, pour répondre à votre question, l'information, avant d'être diffusée, a besoin d'être traitée de façon rigoureuse par nos journalistes ou par le porteur de l'information. Voici ce que je peux dire. Maintenant, le lien, très rapidement, avec la corruption.
La lutte contre la corruption.
Voilà, la lutte contre la corruption. On constate qu'il y a de plus en plus des scandales répétitifs liés à la corruption. Mais ceci dit, ça s'inscrit dans un écosystème. L'écosystème relatif à la lutte contre la corruption nous amène à plusieurs théories économiques. Dans la théorie de l'agence, dans la théorie des choix publics, dans la théorie basée sur la culture et dans la théorie basée sur les questions organisationnelles. Au niveau de la théorie de l'agence, du principal et de l'agent, c'est les motivations. Celui qui estime que son salaire n'est pas suffisant pour couvrir ses besoins propres sera tenté de faire de corruption, par exemple. Et quand on est dans une société où la maxime est que, bon, ben, si je détourne des deniers publics, on ne me fera rien, alors ça devient culturel. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il faut combattre en mettant en place un corpus réglementaire pour lutter efficacement contre les faits de corruption. Et je pense qu'aujourd'hui, notre pays, nous avons fait des bons qualitatifs. Pas plus tard qu'au mois de février, le classement de Transparency International met la Côte d'Ivoire au rang de 105 à 99. Nous avons gagné 6 places. Et en termes de notation, nous sommes passés de 47 à 37. Donc à ce niveau-là aussi, il faut reconnaître les efforts qui sont faits. Depuis 2011, au niveau de l'aide publique au développement, nous avons le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui est un mécanisme d'aide conditionnelle appuyé par les USA, les États-Unis. Mais c'est un mécanisme concurrentiel où il y a plusieurs critères. Sur le MCC, par exemple, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous avons cet indicateur au vert, contrairement aux années antérieures. Et nous avons 14 indicateurs qui nous permettent et qui nous ont permis de bénéficier, n'est-ce pas, du programme COMPACT, avec toutes les infrastructures qu'on observe aujourd'hui sur l'aspect des terrains industriels, sur l'aspect de la mobilité du transport à Abidjan, sur l'aspect de la formation technique et professionnelle. Voici les trois contraintes qui sont financées en ce moment par le programme MCC. Donc je pense que la Côte d'Ivoire fait des progrès et il faut encourager la politique du gouvernement dans la lutte contre la corruption dans ce sens.
Merci beaucoup, Fousseni Palmer. Vous vouliez réagir sur les questions de la multiplicité des structures. C'est vrai que Dr Sibi a dit qui peut le plus peut le moins, mais à la réalité des faits, on s'est rendu compte que par moment, il y avait des difficultés entre les prérogatives de certaines structures en termes d'efficacité. On a vu que vous-même, votre ministère, avait épinglé un certain nombre d'agents d'État. Et après, on a vu que c'était difficile d'appliquer certaines décisions, de sanctionner certaines personnes pour dire clairement les choses, pour dire que c'est pas toujours évident les sphères de compétences des structures les unes avec les autres. Et parfois, nous, en tant qu'observateurs, on s'est dit ça existe, mais on a du mal à percevoir les résultats. Ça met du temps parce qu'on ne voit pas des personnes sanctionnées, on ne voit pas des noms affichés. Et pourquoi ça dure pourtant les structures? Ça fait un moment que ça existe. Ou bien peut-être on n'a pas l'information ou on ne communique pas sur les personnes qui sont sanctionnées.
Oui, merci beaucoup. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je veux revenir. Mais d'abord sur la multiplicité des acteurs. Il a dit, la lutte contre la corruption a trois niveaux. Sensibilisation, prévention, détection et répression. Et en Côte d'Ivoire, nos réformes institutionnelles ont mis en place des institutions qui interviennent dans ces trois domaines. En Côte d'Ivoire, les organes en charge de la prévention et du contrôle, on a l'IGE, qui est l'inspecteur général d'État en matière de contrôle administratif, la Cour des comptes pour tout ce qui est comptabilité publique, partout où l'État met de l'argent, même dans une association, il contrôle. On a la HABG même, la Haute Autorité pour la Grande Gouvernance, créée par l'ordonnance 660 également de 2014. On a l'Assemblée nationale également, qui est un moyen de contrôle. On a le ministère. Pour les organes de détection, la HABG en fait partie. On a la CENTIF, qui est la cellule nationale de traitement des informations financières, logée au ministère de l'économie et des finances, qui traite de tout ce qui est flux financier, donc en charge de la détection. On a la police d'investigation, également au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au niveau de notre ministère également, on a un volet détection. Voilà pourquoi on a lancé en juillet 2022 avec le Premier ministre le système de prévention et détection des actes de corruption SPACIA. Permet à tout citoyen, quel que soit là où il est, de dénoncer un fait de corruption, qu'il soit victime ou témoin. Et enfin, on a des organes de répression. Notamment, vous savez qu'avant, tout se résumait au droit commun, au tribunal du droit commun, au tribunal d'Abidjan. Mais depuis 2017, on a eu à créer le pôle pénal, économique et financier. En 2021, ces pouvoirs ont été renforcés par une chambre spécialisée en matière de criminalité financière. Donc, tout ce qui est corruption, justement, est puni par cela. Et à cela, il faut ajouter le commissariat du gouvernement, le tribunal du gouvernement, qui est en charge, justement, de juger toutes les forces de défense et de sécurité en situation, justement, de corruption. Donc, l'écosystème, il y a peut-être beaucoup d'acteurs, mais l'écosystème, il est très clair. Chaque acteur a un rôle bien précis. Peut-être que c'est l'information que les populations n'ont pas peut-être, mais chacun a un rôle bien précis. Nous, par exemple, ministre, quand vous dites les sanctions, nous ne sommes pas dans le domaine de la sanction. Nous sommes dans le domaine de la prévention et de la détection. De sorte que, quand nous prenons quelqu'un sur un acte de corruption, on a l'obligation, selon les textes qui nous régissent, de faire référence à l'institution de tutelle. Et l'obligation politique qu'on a, c'est que nous, la personne politique que nous faisons, c'est des rapports au Premier ministre et au chef de l'État. Toute personne sait que quand tu es un administrateur ou un fonctionnaire et que tu sais que le président a ton dossier, je pense qu'il y a quand même une pression morale quelque part. Donc, tous les acteurs ont un rôle bien précis, seulement qu'il faut expliquer le rôle de chacun. Et les résultats sont probants. La Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui dans un rapport de l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency. Nous sommes en 2022, 99 sur 680 États. Mais je vais dire, en 2011, nous étions 152e sur 180 États. Avec 27 points sur 100, c'est l'échelle de notation. En 2022, nous sommes à 99e sur 180. Ou là où en 2021, nous étions 105e. Et nous sommes passés de 27 points à 37 points. L'objectif du président fixé, c'est qu'en 2025, nous ayons 50 points sur 100. Nous faisons partie des 7 pays au monde qui ont fait le plus de réformes institutionnelles et juridiques en matière de lutte contre la corruption. C'est d'ailleurs pour cela que la Banque mondiale, pour la première fois en Afrique et en Côte d'Ivoire, a décidé d'organiser le forum ICA, qui est le forum international de la lutte contre la corruption, qui regroupe 100 pays avec 300 participants. Les deux événements seulement qui ont eu, c'était en Amérique et en Europe. Ils ont décidé pour la première fois en Afrique et en Côte d'Ivoire d'organiser cet événement ici. L'indicateur, l'IPC justement, pour aller sur les indicateurs, on a 14 indicateurs et la Côte d'Ivoire est 11 ouverts sur ces indicateurs. MCC, il disait que le programme financé par le Congrès américain, on a accès à ce programme parce que justement, nous sommes quittés sur la liste des pays rouges, aujourd'hui sur la liste des pays intermédiaires. Aujourd'hui, on frappe la porte comme les pays comme le Rwanda qui sont un exemple en thème de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. L'indicateur Mo Ibrahim, nous étions 38e, aujourd'hui nous sommes près de 20e avec l'indicateur Mo Ibrahim. Donc il y a plusieurs indicateurs aujourd'hui qui montrent que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts, mais en même temps, c'est une perception. Les résultats sont là. Vous avez vu en 2021-2022, il y a eu la vague des audits. Beaucoup de dirigeants de sociétés d'État ont été limogés. Mais au-delà de cela, on a beaucoup de fonctionnaires et agents qui sont chaque jour pris. À ce jour, il y a près d'une quarantaine de policiers et gendarmes qui ont été radiés de la police. À ce jour, il y a une cinquantaine de magistrats qui ont été radiés du corps de la magistrature. Aujourd'hui, on a près de 79 fonctionnaires et agents de l'État dans 4 secteurs différents. Santé, économie, transport, éducation nationale qui ont été virés. Vous avez vu, en début d'année, il y a près de 400 personnels d'éducation qui ont été virés.
Pourquoi vous ne communiquez pas sur
mais
ça?
Mais si, j'en conviens avec vous, la communication n'est pas peut-être assez. Là, j'en conviens avec vous. Mais vous savez que les questions de corruption, on l'a dit, c'est des questions qui touchent à la vie, aux droits des citoyens. Quand on a commencé justement toutes ces vagues d'audit, les DG licenciés et tout ça, au cours d'un conseil de gouvernement, un ministre qui disait, mais monsieur le Premier ministre, mais on peut maintenant chaque 20 heures aller au journal, prendre la liste et puis citer les gens pour dire, monsieur Touré Fousseni, il est directeur d'État, il a fait ceci, il a fait cela. Parce que c'est un modèle qu'on a vu au Rwanda qui marche. Au Rwanda, il y a ce qu'on appelle le conseil annuel. Chaque année, le gouvernement réunit tous les dirigeants publics et on donne la liste de ce que tout le monde a fait devant le public. Il y a un contrat de bail entre les agents publics là-bas et l'État de Côte d'Ivoire. Donc, les choses sont en train de se faire. Et en termes de sanctions, j'ai pour habitude de dire, ne confondons pas ce que les populations disent et nous les sachons. Ce n'est pas parce que, j'ai dit, l'affaire Pandora Papers, ce n'est pas parce que quelqu'un est cité dans une affaire qu'automatiquement, on va l'attraper et le mettre en prison. Il y a une question d'éducation. Quelqu'un qui est pris sur un coup surtout un fonctionnaire, il y a ce qu'on appelle le recours administratif préalable. Il ne peut pas y avoir de poursuite judiciaire d'abord tant que ce recours n'est pas épuisé, sauf en cas de flagrance délit. Et même quand ce recours administratif préalable est épuisé auprès de toutes les autorités avec l'inspection générale d'État qui est l'autorité supérieure en la matière, les poursuites judiciaires s'en suivent donc. Donc, beaucoup de DG, je vous rassure, aujourd'hui sont en passe de passer devant le pôle pénal économique et financier parce que les investigations ont été menées. Dans certains cas, on a évidemment certaines preuves de leur malversation. Dans d'autres cas, il y a eu des justificatifs, mais dans tous les cas, il y a eu des mesures conservatoires, des mesures administratives. Et tous ont été suspendus. Ça, c'est déjà une sanction morale. Vous êtes DG chez vous, tout puissant DG. Quand on vous dit que vous êtes suspendu déjà, même si on ne te met pas en prison, tout le monde sait ce que ça représente déjà. Donc ça, c'est déjà un effort de sanction. Mais le président aujourd'hui veut aller au-delà de la sanction, venir à la prévention. Il faut plutôt prévenir que guérir. Voilà pourquoi bientôt, le gouvernement va prendre ce qu'on appelle un décret de mise en conformité des entreprises, publiques comme privées. De sorte que dans toute entreprise publique en Côte d'Ivoire, et même privée, il y a un système qu'on appelle des dispositifs de conformité. Une entreprise, qu'elle soit privée ou publique, qui ne respecte pas cela, elle est susceptible d'être punie. Et on est en train de créer, à Yamoussoukro, on a déjà, les choses sont en train d'être en place, l'académie de leadership par excellence. De sorte que tous les dirigeants, une fois vous êtes nommés, vous faites d'abord un an de formation sur les valeurs anticorruption en Côte d'Ivoire. Le décret, bientôt, dans quelques mois, sera pris. On peut donner plus de détails dans d'autres circonstances. Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire est en train vraiment de tout mettre en œuvre pour justement, pas éradiquer, mais pour baliser la corruption. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans le monde entier, pour dire qu'on peut éradiquer la corruption, mais on peut plutôt baliser, on peut contrôler aujourd'hui la corruption. Et la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin.
Merci beaucoup, M. Fousséni Palma. Nous allons donner le micro maintenant à M. Adama Malé, qui est donc le directeur exécutif de Civis Côte d'Ivoire. On a écouté ensemble M. Fousséni, qui est dans son rôle. C'est quand même le ministère de la lutte contre la corruption qui essaie de présenter les arguments qui sont avancés ou les actions qui sont posées par le gouvernement en vue de réduire le taux de corruption dans le pays. Mais vous êtes acteur de la société civile, vous êtes sur le terrain, vous constatez, vous respirez ce qui se passe. En général, quelles sont les informations qui vous remontent dans le cadre donc de la lutte contre la corruption, l'accès à l'information, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Quel est généralement ce qui s'est dit?
Ok, comme la société civile fait partie prenante de la bonne gouvernance, particulièrement dans la lutte contre la corruption, comme M. Touré l'a dit dans son article, l'ordonnance 660, nous sommes cités à l'article 23. Et aussi, au-delà même, on a aussi les partis politiques qui sont acteurs de la lutte contre la corruption, les médias et aussi le secteur privé. En ce qui nous concernant la société civile, moi je veux bien comprendre par exemple le rôle des institutions contrôle, les institutions supérieures de contrôle, notamment l'IGE et aussi la Cour des comptes. Chaque année, ces institutions nous mettent à disposition leur rapport annuel. Et Civis, par cette ordonnance à l'article 23, fait son rôle de sensibilisation, son rôle de diffusion de l'information. Donc, on s'approprie des rapports annuels des institutions de contrôle pour mettre, les dysfonctionnements liés à l'administration. Puisque les institutions supérieures de contrôle, on va du contrôle l'administration publique, en l'occurrence les ministères, ainsi de suite. Maintenant, pour ce qui concerne l'IGE, j'aimerais m'adresser à Dr Sibi. Est-ce que dans l'un de vos rapports annuels, par exemple, les dysfonctionnements liés dans la gestion de l'administration, est-ce que les recommandations émises par l'IGE sont prises en compte chaque année par ces administrations publiques et aussi les EPN. En ce qui concerne la Cour des comptes, chaque année, elle fait son rapport et la dernière en date, c'est le rapport 2021 qui vient de sortir. Mais Civis Côte d'Ivoire a fait une analyse citoyenne du rapport annuel 2020 de la Cour des comptes. Et dans ce rapport annuel 2020 de la Cour des comptes, il est stipulé des dysfonctionnements, des irrégularités au niveau de l'administration publique. Et la Cour des comptes recommande chaque année la mise en œuvre des recommandations dans les ministères, dans les établissements publics nationaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai à côté de moi le docteur Sivi, je veux lui poser la question si les recommandations sont prises en compte lorsque vous évaluez les administrations publiques.
Avant que vous ne répondiez, Dr. Dr Sibi, je vais ajouter aussi une autre question. Comment rendre public, parce que c'est aussi ça, ce rapport que vous faites chaque année pour que le public ait accès? Parce que c'est vraiment la grande question. Comment accéder à ce rapport-là?
Ok, merci bien. Je vous ai dit tantôt que il y a des niveaux d'information. Et comme vous le dites, l'inspection générale d'État est sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc l'inspection générale d'État rend compte directement au Président de la République. Et les rapports qui sont faits par les missions d'audit, d'investigation, d'inspection de toute l'administration publique font l'objet d'un rapport de synthèse. Et c'est ce rapport de synthèse qui, chaque année, en termes de contenu, en termes de suivi des recommandations, en termes de dysfonctionnement observé, ça et là, autant organisationnel que sur le plan financier, tous ces dysfonctionnements font l'objet de synthèses et qui sont transmis à la haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bien évidemment, les résumés exécutifs de certains rapports peuvent faire l'objet de partage. Nous avons un département en charge de suivi des recommandations. Toutes les recommandations font l'objet d'un suivi systématique. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux, n'est-ce pas, d'exécution de suivi des recommandations de l'ordre de 64%. C'est-à-dire que la plupart de nos recommandations sont prises en compte par les ministères sectoriels, par les EPN, par les administrations publiques.
On va dire par les structures épinglées.
Voilà, par les structures épinglées, si vous le dites ainsi, mais par toutes les structures qui font l'objet d'un contrôle de l'ordre administratif. Okay. Et donc nous, au niveau de l'inspection générale d'État, nous avons des personnes ressources qui sont formées au métier d'audit, au métier d'inspection, au métier d'investigation. Les informations sont aussi disponibles sur nos sites de l'inspection générale d'État, n'est-ce pas, le portail du gouvernement fait l'objet aussi, n'est-ce pas, de certaines publications. Mais le contenu des rapports est à l'entière discrétion de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
D'accord.
C'est ce que je voudrais dire.
À Madame Félicité Crambeau, sur cette problématique, bon, on se rend compte que vous parlez très souvent de démocratie, d'accès à l'information, mais on se rend compte aussi que le politique, dans sa gestion de la chose publique, comprendre ou ne pas comprendre selon à mettre des balises à pouvoir, comme l'avait dit M. Sibi, stratifier l'accès à l'information. Donc, je veux dire, si on gère l'administration publique, il y a un devoir de redevabilité. Donc, il y a un devoir de rendre compte. Donc, il y a un rapport qui est fait, qui est remis au chef d'État, mais c'est sur la gestion de les choses publiques. Mais toujours est-il que les populations n'ont pas forcément accès à cette information. D'où l'interrogation. Est-ce que l'information qui est donnée au chef de l'État, c'est ce qu'on se dit, est-ce qu'en ce moment, même si c'est l'administration publique, c'est notre affaire à nous tous, n'est pas un peu frappé du sceau de la politique? Peut-être que le chef de l'État, s'il veut, si ça l'arrange, il va faire diffuser. Si ça ne l'arrange pas, peut-être qu'il ne fera pas diffusion. On peut dire ça simplement comme ça, si c'est possible.
Il est important, après vos propos, de revenir en fait sur les dispositions de la loi sur l'accès à l'information. Dans mes propos liminaires tout à l'heure, j'ai dit que le droit d'accéder à l'information en Côte d'Ivoire, il est encadré par des tests. Donc, l'article 3 de la loi sur l'accès à l'information dit qu'en Côte d'Ivoire, désormais, toute personne physique ou morale a le droit d'accéder sans discrimination aucune à des informations d'intérêt public et documents détenus par les organismes publics. Donc, au nom de cette disposition légale, le principe, c'est que toute information, tout document détenu par les organismes publics sont communicables. Mais vous convenez avec moi qu'il n'y a, c'est rare de trouver une loi qui n'a pas d'exception. Donc la loi elle-même a pris le soin de lister les exceptions à cette communicabilité de toutes les informations. C'est que, en son article 9, la loi dit que ne peuvent être communiquées l'ensemble des informations dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l'État, aux intérêts de la justice et aux intérêts des personnes. Mais ce qu'il est important de dire, comme nous nous trouvons à une émission qui est Carrefour Citoyen, que nous sommes écoutés par les citoyens, c'est que pour avoir connaissance d'une information d'intérêt public, qu'il faut demander cette information selon un dispositif bien précis. Quand vous voulez avoir une information d'intérêt public ou vous voulez consulter un document public, la loi dit que vous devez le faire par courrier. Donc, vous allez prendre une feuille, faire un courrier à l'administration qui est censée détenir cette information. Donc, si j'estime que je veux avoir une information du ministère de la Bonne Gouvernance, c'est au ministère de la Bonne Gouvernance que je vais écrire pour demander cette information. Je vais décliner mon identité et ma qualité et je vais faire le plus succinctement possible, dire quelle est l'information que je recherche. La loi dit que celui qui veut l'information n'est pas obligé de préciser quelle est la finalité de l'information. Voilà. Mmh. Vous voulez une information, vous la demandez. Et lorsque vous avez fait votre demande d'information, il y a des délais dans lesquels l'administration peut vous donner une réponse. Il y a deux délais. Un délai ordinaire de 30 jours qui est appliqué pour tous les citoyens et un délai exceptionnel de 15 jours pour les journalistes et les chercheurs. Donc, quand vous demandez l'information, vous devez attendre à la fin des délais pour que vous jugiez que l'administration vous a répondu ou ne vous a pas répondu. Donc, quand je reviens sur ce dispositif, on ne peut donc pas demander une information d'intérêt public ou demander la consultation d'un document au téléphone. Ce qui pose généralement problème, c'est que vu que les citoyens communiquent sur les réseaux sociaux, souvent les gens n'ont pas le temps de demander l'information comme la loi le prescrit. On est pressé de donner le premier scoop, donc on va aller dans la mauvaise information ou dans la non-information. Mais voilà ce que la loi dit. Et comme la loi a pris le soin de mettre en place une commission, notre rôle est d'accompagner le citoyen dans la recherche de cette information. Donc au moment où vous demandez l'information à une institution étatique, vous pouvez soit nous mettre en copie de votre information, ou nous porter connaissance et puis nous faisons le suivi pour vous, ou à l'expiration des délais, vous saisissez la CAIDP. Si vous n'avez pas eu l'information demandée, et c'est à la CAIDP de vous accompagner auprès de cet organisme public pour avoir l'information. Ce qu'il est important de dire au cours de cette émission, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, surtout au niveau de la CAIDP, l'État de Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres États, n'a pas été obligé de mettre en place ni cette loi, de prendre cette loi, ni mettre en place une commission. Donc, partant de cela, moi, je voudrais rassurer tous les citoyens que nous avons foi que l'État a une volonté de transparence. Il appartient maintenant aux citoyens de demander l'information. Parce que bien souvent, lorsque nous menons des campagnes de sensibilisation, les gens vous disent, on ne demande pas parce qu'on sait qu'on ne va pas obtenir. Mais si vous ne demandez pas, selon le principe prescrit par la loi, que vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas accuser le gouvernement par derrière de faire de la rétention. Il faut demander, et si on n'obtient pas à ce moment-là, on fera le bilan de la question de la transparence ou pas de l'État.
Madame Carmo, gardez le micro puisque vous l'avez. Il se trouve aussi que parfois, certains travailleurs ou agents de l'État ne sont pas au même niveau d'information que les textes de loi qui sont adoptés ou qui sont pris. Parfois, les usagers ont des difficultés sur le terrain. Ils font la procédure, comme vous avez dit, et c'est concerné. Et parfois, il y a un refus. L'agent dit « je ne donne pas ». Et le citoyen se retrouve désarmé ou parfois, comme vous-même vous l'avez expliqué tantôt, dans des forats, dans une administration décentralisée où des citoyens étaient allés demander un document, on leur a brandi un texte de loi qui dit non, au nom de ce texte de loi-là, nous on ne peut pas vous communiquer cela. Donc ça veut dire aussi que les textes sont pris, l'appropriation de ces textes par les citoyens, par les agents, l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État, il y a souvent un délai qui n'est pas toujours assumé, qui n'est pas toujours franchi. Parce que souvent, les gens ne sont pas suffisants. Même les agents de l'État ne sont pas informés de ces textes-là. À Abidjan, un peu, ça va, mais plus vous partez vers des autorités des zones décentralisées, il y a des difficultés. Comment on arrive à gérer cela?
Il faut dire qu'il est important de nous remémorer qu'un État qui se construit est en constante amélioration. Que nous sommes passés d'une longue tradition de la rétention à aujourd'hui, à la volonté affichée de l'État d'être transparent. Et c'est pour ça que je dis, il appartient aux citoyens de jouer le jeu de vouloir questionner l'État. Il est vrai que, on va dire, la loi n'est pas si ancienne que ça, puisqu'elle date de 2013, donc elle n'est pas assez connue. Mais justement, depuis que la CAIDP est là, nous avons beaucoup travaillé avec la presse. Nous avons travaillé également avec les organisations de la société civile qui sont le porte-voix des organisations. Nous avons un site internet depuis quelques années. Nous sommes allés au-delà de la mission traditionnelle de te dire que la CAIDP allait être attentiste et attendre à ses bureaux d'être saisie par les citoyens avant de jouer son rôle d'arbitre. Nous sommes allés vers les administrations pour les insister à faire un exercice qu'on appelle la diffusion proactive. La diffusion proactive, c'est de demander aux organismes publics de diffuser sur leur site internet la plupart des documents qui sont dans leur service. Et chaque année, depuis 4 ans, nous faisons une remise de prix aux organismes publics qui diffusent au mieux les informations. Et en faisant cet exercice, là où nous avons été agréablement surpris, c'est que c'est le ministère du budget qui distribue les enveloppes, qui a été premier à plusieurs reprises avec l'ensemble de ses directions. Et le ministère du budget témoignant a dit, mais si nous qui avons le gros portefeuille du budget de l'État, nous diffusons de façon proactive, donc j'invite mes autres collègues à le faire parce que ça veut dire que le gouvernement ivoirien n'a pas grand-chose à cacher. Un autre point rapidement, c'est de dire que l'article 26, qui concerne les dispositions pénales, punit d'une amende de 100 000 à 500 000 francs quiconque sciemment fait obstruction de quelque manière que ce soit à la délivrance d'un document ou d'une information d'intérêt public. Donc la loi est aussi assortie de sanctions. C'est pour ça que il est important que le citoyen soit rassuré que cette loi existe. Et il faut que les journalistes, les organisations de la société civile nous aident à faire connaître la loi et nous incitons les citoyens à faire des demandes, à saisir la CAIDP. Et s'il existe encore de la résistance à ce moment-là, nous avons confiance que le gouvernement ira beaucoup plus loin.
Merci beaucoup. Monsieur Palmer Fousseni, vous voulez ajouter quelque chose et tout à l'heure, on va revenir à vous, docteur Sibijo.
Rapidement, je voulais ajouter que l'article 57 de la loi qui organise l'IGE dit clairement, les rapports de l'IGE sont remis, il a dit, principalement au chef de l'État, au chef du gouvernement, au président d'institution et à la presse. C'est très écrit dans la loi. Et je vais aller plus loin. Ils l'ont dit, l'État de Côte d'Ivoire a montré véritablement sa volonté de transparence. C'est la première fois en Côte d'Ivoire, en tout cas, depuis que moi je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, je suis né, qu'un chef d'État reçoit publiquement un rapport et dit publiquement le mal qui mine son administration. Le président de la République l'a fait plusieurs fois. Il a reçu des rapports, il a dit, écoutez, dans mon rapport, l'IGE me dit que j'ai des fonctionnaires fictifs. Et les mois qui ont suivi, on a vu toute la campagne que la ministre de la Fonction publique a fait. Il a dit, dans la Fonction publique, l'IGE me dit qu'il y a des fonctionnaires qui sont à la fois payés par le solde de la Fonction publique et qui sont payés par la Convention Bennett. On a vu les efforts qui se sont faits. Donc, c'est un effort de transparence, de bonne gouvernance que le chef de l'État reçoit des rapports de l'IGE, des rapports objectifs et dit publiquement le mal qui mine son administration. C'est inédit. C'est de la transparence, c'est de la reddition, c'est de la redevabilité. Il faudrait que les citoyens aient confiance en notre appareil, en notre système pour dire que, l'a dit Mme Kramo, nous sommes passés d'un système au noir aujourd'hui à un système au vert.
Au gris.
Non, je vais dire au vert parce que c'est justement, aujourd'hui vous voyez, prenez l'Afrique de l'Ouest sous l'Afrique subsaharienne. Vous verrez que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où l'information concernant tout le monde circule à tout moment. Des citoyens mettent des informations, soit même vraies, sur les réseaux sociaux. Et c'est après même que le gouvernement même réagit. Pour montrer le niveau de démocratisation, le niveau de transparence de l'État, le niveau de redevabilité de l'État. C'est vraiment rare dans nos pays, sous nos tropiques. La Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts. J'en conviens, il y a encore à faire. Mais la Côte d'Ivoire est un État en construction, est un jeune État, mais beaucoup a été déjà fait. Mais il reste à améliorer justement notre système de transparence.
Rapidement, docteur Sibi, on va aller...
Merci bien. Récemment, pour ceux qui ont suivi l'actualité, l'inspection générale d'État a fêté ses 62 ans.
Avec ses journées portes ouvertes.
62 ans... d'anniversaire post-colonial, et beaucoup de choses ont été faites pendant ces 62 années. Il y a eu plusieurs réformes, comme l'a dit le collègue. L'État n'a rien à cacher. Bien au contraire, tous les rapports qui sont remis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, aident à la transparence et à la bonne gouvernance. Certaines informations peuvent paraître difficiles à maîtriser par le citoyen lambda, mais le milieu des sachants savent à quoi servent ces informations. Toutes les informations n'ont pas la même portée. Mais pour dire quelque chose concernant les différents acteurs, lorsque nous avons mené l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040, qui aujourd'hui nous a donné la vision que nous avons, une Côte d'Ivoire solidaire, dans sa diversité culturelle, et qui est sur... le chemin de son industrialisation. Bien entendu, le rôle de la société civile et des médias joue un contrepoids, n'est-ce pas, dans l'action, n'est-ce pas, du gouvernement. C'est très important. Le rapport de force aujourd'hui est quasiment presque équilibré. Lorsque une information est donnée par un individu lambda, mais le gouvernement prend ça au sérieux. Parce que ça y va lui-même, n'est-ce pas, de la bonne gestion de son environnement organisationnel. Donc il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a rien à cacher. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de réformes institutionnelles ont été menées, ont été faites, et je vous l'ai dit tantôt, qui peut plus, peut moins. Les efforts qui ont été faits par le gouvernement, nous voyons aujourd'hui les fruits. Par le passé, il y avait des actions qui étaient menées, mais dont on ne nous est même pas venu à la place publique pour en parler. Mais aujourd'hui, tout est mis à nu. Maintenant, pour conclure plus ou moins sur les questions liées à la presse, aujourd'hui, la presse a un rôle important à jouer. Tous les pays modernes, tous les pays émergents, la presse a un rôle important à jouer. En ce sens que la presse doit être le levier, n'est-ce pas, qui doit accompagner le gouvernement dans les actions de bonne gouvernance. Mais cela dit, il faut qu'on ait une presse responsable. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas seulement le lieu de communication où on doit venir tout dire. Il faut qu'on ait une presse responsable, une presse encadrée qui contribue au développement des citoyens et qui contribue au développement de la nation.
Merci beaucoup, Monsieur Sibi Georges. Je vais m'adresser à vous maintenant, Monsieur Gérard Guédégbé, sur cette problématique. C'est vrai qu'on a parlé de bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, mais on a écouté les experts venus donc du monde de la bonne gouvernance. On se rend compte que ce sont des terminologies assez fortes, difficiles, avec des mots, j'ai pas dit savants, mais qui méritent d'être initiés. Est-ce que le citoyen lambda, pour une efficacité dans sa lutte, dans la transparence, donc dans la lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion des ressources publiques, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que tout le monde peut parler efficacement de la lutte contre la corruption? Tout le monde peut maîtriser ce domaine de la corruption où il y a des chiffres, où il y a des termes, où il y a des textes de loi vraiment difficiles. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde?
Vous savez, la question d'éducation des masses est une question de tous les jours. Faire en sorte que les gens comprennent que, au lieu de rester là à crier sur le toit, je n'ai pas l'information, voici juste ce que je dois faire. Donc, la démarche pédagogique, pour moi, elle est primordiale. Ça, c'est la première observation que je fais. La deuxième, c'est que l'exercice de faciliter l'accès à l'information d'intérêt public. Je pense que cette émission ne suffirait pas à expliquer ce thème d'intérêt public, tout autour de ça, permettra beaucoup plus de réduire les marges de la désinformation et de la mésinformation. Il faut savoir que les citoyens qui reçoivent une information sur Facebook, sa première réaction, c'est pas de savoir est-ce que c'est de la désinformation ou de la mésinformation. Ce citoyen prend ça comme information contre. Et ça, c'est le risque que cela court pour la destruction de la des journalistes. La semaine dernière, j'étais au Kenya et on a passé près de 3 jours à ne parler que de ça. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'information ne détruit pas les fondamentaux, pour ne pas dire les fondements de la démocratie aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un grand risque. Je peux vous dire que c'est un risque plus grand même que la déclaration de guerre. Parce qu'il suffirait peut-être qu'une information qui n'est pas juste soit propagée au sein d'une communauté et que cette communauté réplique dans une autre. D'ici 14 heures, on aura une autre situation. Donc c'est pour vous dire un peu le caractère un peu plus brûlant de la question de la gestion de l'information. Et on gagnerait tout à davantage faciliter l'espace d'accès et de rassurer aussi le citoyen sur le fait que ce n'est pas parce que vous êtes citoyen que vous avez accès à tout. Et ça aussi, c'est important de le dire. Il ne faut pas avoir honte de dire que l'information qui parvient à l'oreille du président ne peut pas être accédée aux citoyens parce que le citoyen n'est pas le président. Je pense que cette manière de communiquer fera en sorte que les citoyens soient rassurés sur c'est qui le président, c'est qui le citoyen. Parce que chacun doit savoir quel est son fauteuil, si vous êtes citoyen et si vous êtes président. La dernière chose que je voudrais dire, c'est de faire en sorte que il y a un besoin important de former davantage les journalistes. Ce que vous faites, il est intéressant. Je pense que la formation des journalistes, c'est la formation à la compréhension. Parce que le journaliste, s'il est mal informé, il étale l'espace d'obscurité d'information sur le citoyen. Donc, davantage les former même sur les basiques qu'on a vues ici, là, où il faut dire, bon, quand est-ce qu'on peut avoir l'accès à l'information, de ce genre de formation. Deuxième niveau, c'est de faire en sorte que les journalistes connaissent aussi leur métier. Désolé, vous me connaissez, toutes les fois où je parle, j'ai l'habitude de dire que les journalistes connaissent mieux les autres secteurs qu'ils ne connaissent leur métier eux-mêmes. Et c'est un drame pour notre société. Donc, je pense que ce qui est fait là est très bon à titre pédagogique. Et moi, si j'ai un encouragement, c'est de faire en sorte que ces aspects-là reviennent pour qu'on répète ce genre de choses, peut-être aussi dans nos langues. Et n'oubliez pas, c'est très important. Et je pense que ça pourra aller. Merci.
Ben, le temps qui nous est imparti est arrivé à terme, malheureusement. Je voudrais donc, au nom donc, de Radio de la Paix, de l'ambassade des États-Unis, vous dire merci d'avoir effectué le déplacement. Rappelez que le thème qui nous a réunis ce matin était journaliste, citoyen et rôle des réseaux sociaux dans la lutte contre la corruption. J'ai eu pour invité Dr Sibi Georges, il est expert en bonne gouvernance, il est en fonction à l'inspection générale d'État. J'ai eu également M. Palmer Fousseni Touré, il est directeur de la communication au ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. J'ai eu Mme Félicité Cramo, elle est directrice des opérations à la commission d'accès aux informations d'intérêt public. J'ai eu Monsieur Gérard Guédégué, il est expert média, consultant international. J'ai eu également Monsieur Adama Malé, il est directeur exécutif de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Modération de ce panel, Ben Diakité, réalisation, Antoine Kouassi, merci de nous avoir suivis. Et puis, très bon week-end à vous et chez vous.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la paix.